Chapitre 26. La réunion d'urgence de la cellule de crise commença avec retard car l'interrogatoire des Eola s'était prolongé. Mais comme la majorité des enquêteurs étaient arrivés à l'heure, le temps que Bobby, Didi et Sinkus fassent leur entrée, les boîtes à pizza étaient vides, les sodas sifflés et il ne restait plus le moindre bretzel. Bobby lorgna sur l'unique rescapé, un récipient en plastique rempli de piments rouges concassés. Puis il se ravisa. « Ok, ok !» commença Didi tambour battant. « On se rassemble, on écoute. Il y a du nouveau pour changer, alors au boulot !» Le capitaine Rock bâilla et essaya de camoufler ce mouvement en disposant ses piles de papier en éventail.
« Il paraît qu'on a reçu un message, » dit-il.
« C'est notre gars ou bien un cinglé qui rêve de célébrité ?» Rien de certain. On a diffusé le nom d'Annabelle Granger au début, mais aucun renseignement sur le médaillon ou les autres objets personnels. Donc soit notre auteur anonyme possède des informations confidentielles, soit c'est bien notre homme. Cette idée les ragaillardit, mais la déclaration suivante de Didi fut accueillie par un ronchonnement collectif. « J'ai des photocopies du message à distribuer, mais pas tout de suite. Commençons par le commencement, notre débriefing du soir. » On fait le point sur ce qu'on sait désormais, et ensuite on verra comment cette petite lettre de soutien, dit-elle en agitant le tas de photocopies, s'intègre au puzzle. Sinkus, à toi l'honneur. Sinkus n'avait rien contre. En tant qu'officier référent sur le dossier Christopher et Eola, il vibrait d'excitation. Il résuma l'interrogatoire avec les parents d'Eola, ce qu'on savait maintenant des activités sexuelles d'Eola, le fait que son ancienne nounou correspondait à une description générale d'Annabelle Granger, une des cibles connues. Plus intéressant encore, Eola avait accès à d'immenses ressources financières. Entre son compte en Suisse et son compte en fidéicommis de plusieurs millions de dollars, il était hautement probable qu'il pouvait conserver un certain train de vie en cavale, rester dans la clandestinité, etc. En fait, pratiquement tout était possible, et il allait donc falloir qu'il reste ouvert à toute éventualité. Étape suivante, passer un coup de fil au département d'État pour pister le passeport d'Eola. Contacter Interpol, au cas où ils auraient Eola dans le collimateur, ou bien une affaire impliquant un individu au mode opératoire comparable. Et pour finir, déterminer la procédure à suivre pour retrouver la trace de capitaux transférés depuis un compte en Suisse, ou mieux encore, geler totalement ses avoirs.
« Dites qu'Eola est un terroriste ?» proposa McGagin.
Commentaire qui suscita quelques rires.
« Je ne plaisante pas, » insista le commandant. « Un meurtre importera peu aux yeux du gouvernement suisse, ou de qui que ce soit d'ailleurs. En revanche, si vous écrivez dans un rapport que vous avez des raisons de penser qu'Eola a enfoui des matériaux radioactifs en plein milieu d'une grande ville, ces capitaux seront gelés et fissa. Les cadavres sont bien radioactifs, non ? Personne ici ne se souvient de ses cours de sciences ? »
Ils se regardèrent d'un air ébahi. Apparemment, aucun d'eux ne regardait la chaîne Discovery.
« Eh bien, » s'entêta McGagin, « je crois que c'est vrai. Et je vous dis que ça marchera. »
Sinkus haussa les épaules, prit une note. Ce ne serait pas la première fois qu'il ruserait pour faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. C'était à cela que servaient les lois, à ce que des enquêteurs débrouillards trouvent le moyen de les contourner. Sinkus était aussi chargé de retrouver Adam Schmidt, l'aide-soignant de l'hôpital psychiatrique qui avait été renvoyé pour avoir couché avec une patiente. Il passa à son cas. « J'ai enfin localisé Jill Cochrane, l'ancienne infirmière en chef, » expliqua-t-il. « Il paraît que c'est elle qui détient la plupart des dossiers de l'ancien établissement. Elle les répertorie, elle les archive, que sais-je. Elle fait ce qu'on fait avec la paperasse d'un asile d'aliénés. Je la rencontre demain matin pour poursuivre l'enquête sur Monsieur Schmidt. » « Les vérifications de routine sur Schmidt ?» s'enquit Didi. « Rien donné. Alors soit Adam a été un très bon garçon depuis son passage à l'hôpital psychiatrique, soit il a été beaucoup plus malin pour ne pas se faire prendre. Mais mon sixième sens ne me dit rien de ce côté. Et Eola me plaît mieux. »
Didi n'eut qu'un regard à lui lancer. Sinkus leva les mains pour se défendre. « Je sais, je sais. Un bon enquêteur creuse toutes les pistes. Je creuse, je creuse. »
Le manque de sommeil avait apparemment rendu Sinkus assez pugnace. Il se rassit. Au tour du capitaine Tony Rock d'être sur la sellette pour rendre compte de l'activité récente au standard des Crime Stoppers.
« Quoi vous dire ?» grommela l'enquêteur d'une voix rocailleuse.
Il paraissait épuisé, parlait d'une voix épuisée et se sentait sans doute aussi frais qu'il en avait l'air.
« On reçoit en moyenne 35 appels par heure, dont la plupart se répartissent en trois grandes catégories. » Légèrement taré, complètement taré et triste à pleurer. Les catégories légèrement et complètement tarées correspondent à peu près à ce que vous imaginez. C'est un coup des extraterrestres, deux types en combinaison blanche. Si vous voulez vraiment être en sécurité en ce bas monde, il faut porter du papier d'aluminium sur la tête. Les tristes à pleurer, eh bien, c'est triste à pleurer. Des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, qui ont tous eu une disparition dans leur famille. Hier, on a eu une femme de 75 ans. Petite sœur disparue en 1942. Elle avait entendu dire qu'on avait retrouvé des squelettes. Elle a pensé que c'était peut-être sa chance. Quand je lui ai dit que nous ne pensions pas que les dépouilles étaient aussi anciennes, elle a fondu en larmes. Ça fait 65 ans qu'elle attend que sa petite sœur rentre à la maison. Elle m'a expliqué qu'elle ne peut pas arrêter maintenant. Elle a fait une promesse à ses parents. La vie est vraiment dégueulasse, des fois. Rock se pinça l'arête du nez, cligna des yeux, continua. « Bon, j'ai une liste de 17 disparues, toutes volatilisées entre 1970 et 1990. Certaines sont du coin, la plus lointaine habitait en Californie. J'ai recueilli autant d'informations que possible auprès des familles à des fins d'identification, notamment bijoux, vêtements, soins dentaires, os fracturés et ou jouets préférés. Vous savez, au cas où on pourrait faire un quelconque rapprochement avec les souvenirs personnels attachés près de chacun des corps. » Je passe les infos à Christy Callahan. Sinon, c'est tout pour moi. » Il prit un siège et son corps parut se dégonfler jusqu'au moment où il s'effondra, plutôt qu'il ne s'assit sur la chaise pliante. Cet homme n'avait pas bonne mine et ils perdirent un instant à l'observer en se demandant qui serait le premier à dire quelque chose. « Quoi ? » aboya-t-il. « Tu es sûr ?» commença Didi. « Je ne peux pas guérir ma mère, » rétorqua Rock. « Autant retrouver le connard qui a tué Sigamine. » Personne ne voyait grand-chose à ajouter, et ils enchaînèrent donc. « Bien, » reprit vivement Didi. « Nous avons donc un suspect principal, doté d'une intelligence et de moyens financiers au-dessus de la moyenne. Un autre suspect, ancien employé, sur lequel il vaut encore la peine de se pencher, et une liste de 17 disparus grâce aux standards des Crime Stoppers. Sans compter qu'il pourrait y avoir un lien avec un enlèvement qui s'est produit 2 ans avant la disparition de ces 6 fillettes. Qui d'autre veut entrer en piste ? Jerry ? » Le commandant McGahagin avait été chargé de passer au crible les affaires de disparition de mineurs non résolues par la police de Boston au cours des 30 dernières années. Son équipe avait dressé une liste de 26 cas dans le Massachusetts. Ils élargissaient maintenant la recherche à toute la Nouvelle-Angleterre. Parcourant la copie du rapport de Tony Rock sur les Crime Stoppers, il repéra 5 points communs entre les 2 listes de noms. « Ce qu'il me faut maintenant, » déclara McGahagin d'une voix accablée, « c'est un rapport d'autopsie. Si Callahan peut me fournir une description physique des dépouilles, il y a une chance que je puisse faire le rapprochement avec une affaire non résolue. Ensuite, on pourrait s'atteler à confirmer l'identité, ce qui nous permettrait en retour de dater la tombe collective. Bing bang boom. » McGahagin regarda Didi d'un air interrogatif. Elle lui retourna posément son regard. « Et qu'est-ce que tu attends de moi, Jerry ? Que je te chie 6 rapports d'autopsie ?»« Putain, ça fait 4 jours, Didi. Comment ça se fait qu'on ne sache toujours rien des 6 corps ? On appelle ça la momification naturelle, » répliqua Didi avec virulence. « Et personne n'avait jamais eu affaire à ça en Nouvelle-Angleterre. » « Alors, avec tout le respect que je dois à Christy, appelez quelqu'un qui connaît. Elle l'a fait. Hein ?» McGahagin semblait interloqué. Les enquêteurs demandaient des moyens, des experts, des analyses scientifiques à longueur de temps. Ça ne voulait pas dire qu'on les leur accordait en haut lieu. « Christy va avoir du renfort ?»« Demain, à ce qu'on m'a dit. Un crack irlandais spécialisé dans cette connerie est curieux d'en voir un exemple moderne. Le procureur s'est précipité pour débloquer le budget. Il semblerait que le standard des Crime Stoppers ne soit pas le seul à exploser. Toute la ville inonde le bureau du gouverneur de plaintes hystériques, comme quoi un tueur en série se promène en liberté et va assassiner leur gamine. » Ce qui me rappelle que le gouverneur voudrait qu'on ait résolu cette affaire, voyons, il y a environ 5 minutes. Didi leva les yeux au ciel. Les autres enquêteurs s'efforcèrent de ricaner un peu. « Sérieusement, les gars, » reprit Didi. « Christy se donne du mal. On se donne tous du mal. Elle pense qu'il lui faudra encore 1 semaine. Alors on peut se tourner les pouces en pleurnichant, ou alors, tiens, j'ai une idée. Mener une bonne petite enquête de police à l'ancienne. » Elle reporta son attention sur McGahagin. « Tu dis que tu as une liste de 26 disparus dans le Massachusetts ? 26, ça me paraît beaucoup. Comme l'a dit Tony, le monde est dégueulasse.
Vous en avez fait un graphique? Est-ce que vous avez repéré, par exemple, une recrudescence autour de certaines dates? Entre 79 et 82, il ne faisait pas bon être une petite fille à Boston. À quel point? 9 cas en 4 ans, tous non résolus. Âge de l'échantillon? De 0 à 18 ans. Didi le regarda pensivement. Et si on réduit la fourchette, disons, de 5 à 15 ans? On tombe à 7. Les noms? Il les énonça, y compris celui de Dori Petracelli. Lieu? Un peu partout, Southie, Lawrence, Salem, Waltham, Woburn, Marlborough, Peabody. Si on part de l'hypothèse que le même individu est responsable de 6 des 7 cas, certes, faisons cette hypothèse. Pour commencer, il faut quelqu'un qui dispose d'un véhicule, réfléchit McGahagin. Quelqu'un qui ait ses repères dans l'état, qui s'intègre facilement dans plein d'endroits différents. Peut-être un ouvrier de maintenance, un réparateur, quelqu'un d'intelligent, d'organisé, de ritualisé dans son approche. La chronologie colle pour Eola, commenta Sinkus. Relâché en 78, il n'a rien de mieux à faire. Sauf, murmura Didi, que les incidents commencent à se raréfier en 82. Eola n'aurait eu aucune raison de s'arrêter. En théorie, il aurait pu continuer indéfiniment. Ce qui, pour être franche, serait vrai de tous les criminels. Les prédateurs ne décident pas un beau matin de se repentir. Il s'est passé quelque chose. D'autres événements, d'autres influences ont dû intervenir. Ce qui nous amène, dit-elle en cherchant Bobby du regard, puis le trouvant, à Russell Granger. Bobby soupira, se balança sur sa chaise. Il avait été tellement occupé depuis son retour au central qu'il n'avait pas eu le temps de pisser sans parler de préparer des notes. Tous les regards étaient maintenant tournés vers lui. Les flics municipaux jaugeaient le gibier d'État. Il fit de son mieux avec ce qui surnageait dans son esprit. D'après les rapports de police, Russell Granger a signalé pour la première fois un voyeur près de sa maison d'Arlington en août 1982. Ceci a déclenché une suite d'événements qui, 2 mois plus tard, l'ont conduit à plier bagages et à disparaître avec sa famille, officiellement pour protéger sa fille de 7 ans, Annabelle. Donc, à première vue, on a une cible, Annabelle Granger, et son pauvre papa aux abois. Sauf que, appuya Didi. Petit 1, dit Bobby en comptant sur ses doigts, Catherine Gagnon, kidnappée en 1980, a reconnu une photo de Russell Granger. Mais pour elle, c'était un agent du FBI qui l'avait interrogé 2 fois à l'hôpital après son sauvetage. Ça se passait donc en novembre 1980, soit près de 2 ans avant la plainte contre un voyeur que Russell Granger allait déposer à Arlington. Rock avait paru s'assoupir à la table, mais cette information lui fit brusquement relever la tête. Hein? Je ne te le fais pas dire. Petit 2, pendant ses visites à Catherine, Granger lui a montré un portrait robot. Catherine a répondu que ce croquis en noir et blanc ne correspondait pas à son agresseur. Granger a voulu insister, il s'est énervé quand elle est restée sur ses positions et a confirmé que ce n'était pas lui. Alors, est-ce que le dessin était une tentative de la part de Granger pour détourner l'attention de Catherine, ou bien soupçonnait-il réellement quelqu'un d'être son violeur? J'ai mon opinion. Le commandant a la sienne, dit-il avec un mouvement de tête vers Didi. Ce qui nous amène au petit 3. Il n'y a aucune trace de Russell Granger. Pas de permis de conduire, pas de numéro de sécu. Ni pour lui, ni pour la mère d'Annabelle, Leslie Ann Granger. D'après le cadastre, entre 75 et 86, la maison des Granger dans Oak Street appartenait à un certain Gregory Baddington de Philadelphie. J'imagine que les Granger étaient locataires, sauf que Baddington est décédé il y a 3 ans et que sa femme, qui m'a eu l'air d'avoir 150 ans au téléphone, ne voyait absolument pas de quoi je parlais. Donc, impasse de ce côté-là. Hier, j'ai commencé une vérification de routine dans les archives financières et ça ne m'a mené nulle part. J'ai lancé une recherche sur le mobilier des Granger, apparemment mis au garde-meuble. Nada. C'est comme si la famille elle-même n'avait jamais existé. À part, évidemment, les plaintes déposées par Granger.
Vous croyez que Russell Granger a pris sa propre fille pour cible?
Demanda Rock dérouté.
Qu'il a tout inventé?
Moi, non. Le commandant Warren, en revanche, ça lui fournissait une couverture parfaite, dit posément Didi. Peut-être qu'en 82, Russell a pensé que la police allait commencer à remarquer la soudaine multiplication des disparitions de petites filles. En se posant lui-même en victime, il croyait éviter d'être considéré comme un suspect.
Par ailleurs, ça lui donnait une bonne couverture pour son propre départ en octobre. Réfléchissez à ça, cette fillette disparue entre 1979 et 1982, dont l'une personnellement connue de Russell Granger, la meilleure amie de sa fille. Et pourtant, pas un seul enquêteur n'essaie de le retrouver pour l'interroger. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà assis son image de père protecteur. C'est parfait. Cinqus paraissait dépité. Il aimait manifestement l'idée que son poulain et Ola étaient le coupable, et l'émergence soudaine de Russell Granger comme alternative viable lui fendait le cœur. « Petit détail, » riposta Bobby. « Russell Granger est mort. Ce qui signifie que, quoi qu'il ait pu faire au début des années 80, ce n'est pas lui qui a laissé un message sur le pare-brise de Didi. Tu es sûr ? Tu ne suggères pas réellement... Regarde les faits, Bobby, » dit Didi. Jusqu'à présent, tu es incapable de prouver que Russell Granger a existé. Alors comment peux-tu être tellement certain qu'il est mort ?
Oh, pitié.
Je ne plaisante pas. Tu as un certificat de décès ? Des éléments de recoupement ? Non, tu n'as que le témoignage de sa fille, laquelle prétend que son père a été accidentellement tué par un taxi. Aucun autre document ni indice à l'appui. C'est assez commode si tu veux mon avis.
Alors non seulement Russell Granger est un tueur en série, mais en plus sa fille le couvre. Qui est passé des faits à la fiction, là ?
Je dis simplement qu'on ne peut pas tirer de conclusions hâtives. Il y a deux choses que je veux savoir, dit Didi en le regardant froidement. Primo, quand Russell Granger est-il entré pour la première fois dans cet état ? Deuxio, pourquoi a-t-il continué à fuir après avoir quitté Arlington ? Donne-moi ses réponses. Ensuite, on discutera.
Primo, répondit sèchement Bobby. Le MIT vient de me donner le nom de l'ancien patron de Russell. J'espère rencontrer le docteur Schwepp à la première heure demain matin, ce qui devrait me fournir des réponses sur le passé de Russell Granger, y compris sa date d'arrivée dans le Massachusetts. Deuxio, je fais des recherches sur les dates et les villes après le départ de la famille Darlington, mais j'ai été trop occupé à te courir après pour arriver à faire autre chose.
Didi eut un sourire amer. À propos de ce message, dit-elle en brandissant le tas de photocopies, parlons un peu du clou de la soirée.